Jean Madeline. Le mensonge. Conte. Ce peuple était frappé d'une ignorance étrange. Il ne connaissait pas le mensonge. Les hommes ne mentaient pas. Toutes leurs paroles étaient droites, conformes à leurs pensées et à leurs actes. Et les femmes non plus. Les femmes même ne savaient pas mentir. Les blondes restaient blondes et celles dont les cheveux étaient noirs les gardaient-elles. Les vieilles conservaient leur tempe ridée et leurs joues creuses. Aucune ne soupçonnait l'usage de ces teintures et de ces pâtes dont s'est accoutumé à se servir chez nous pour se composer un visage, non point plus agréable, mais simplement différent de la réalité. Quand j'arrivais chez mon oncle, Côte, je lui marqua un ennui profond de ma visite. Je lui demandais « Je ne vous dérange point, comme il est conforme aux convenances. » Il me répondit « Oh pardon, vous me dérangez beaucoup, car j'attends mes navires et je prépare en ce moment les noces de ma fille. Mais puisque vous avez fait ce long voyage, je ne saurais vous laisser repartir aussitôt. Entrez dans ma maison, mais restez-y le moins de temps qu'il vous sera possible. » Après m'avoir offert quelques rafraîchissements, il me proposa de me mener voir la ville. Elle est régulière et bien bâtie, ouverte en rues droites et larges. Mais aucun artifice ne la pare, et l'on n'y rencontre aucun de ces minuscules jardins qui s'efforcent d'attendrir l'âme des citadins en donnant à leur sentimentalité un mirage de vraie campagne. Aussi est-elle ennuyeuse et austère, et j'en gardais cette impression que les vies qui habitent là sont tristes. Les gens que nous rencontrions étaient mal habillés pour la plupart. Ils s'en allaient en effet par les rues avec leurs vêtements habituels, nul ne songeant, lorsqu'ils sortaient de sa demeure, à changer de costume, puisque cette précaution n'a pas d'autre but que de tromper les autres sur la réalité d'un luxe purement extérieur. Je fus surtout frappé de voir combien la majorité des passants étaient sales, même parmi les hommes et les femmes de tournure élégante, car ils ne connaissaient pas l'art de se laver les extrémités apparentes et de dissimuler artificiellement la malpropreté des dessous. Mais personne, sinon moi, ne paraissait s'étonner de ces choses. Au coin d'une rue, nous aperçûmes une jeune femme qui pleurait. Nous lui demandâmes la cause de ses larmes. « C'est, nous dit-elle, que je suis une femme adultère. Mon mari m'interrogea quand je rentrais chez nous. Et comme je lui ai dit ma faute, il m'a chassée. Maintenant, je ne sais plus où aller. Et votre amant ? Je sors un instant de chez lui. Je lui ai dit, si vous m'êtes vraiment attaché, qu'allez-vous faire pour me secourir ? À quoi il a répondu ? Vous fûtes une agréable maîtresse, et j'aurais revu volontiers vos jambes et vos bras nus, mais j'ai pas l'intention de m'occuper de votre destinée. Car ce que j'éprouve pour vous, c'est un simple désir que je satisferai désormais avec d'autres. Hélas, hélas. Mais, lui dis-je, vous fûtes une sotte. Au lieu d'avouer à votre mari que vous aviez oublié vos devoirs, pourquoi n'avoir pas employé les faciles excuses d'une tante malade ou d'attardement parmi les magasins. Elle me regarda de ses grands yeux candides et ne parut pas comprendre mes paroles. Comme nous passions devant un monument d'aspect sévère, mon compagnon me dit « Oh, c'est le palais du Parlement. Mais il est actuellement désert, car les élections récentes n'ont pas pu aboutir. Les électeurs avaient exprimé des désirs au sujet desquels les candidats n'ont voulu faire aucune promesse. Aussi, personne n'a voté. On cherche actuellement un terrain sur lequel les divers sentiments puissent se concilier. » Je l'interrogeai. « Fait-on beaucoup de politique ici ? » Il me demanda, surpris, « Mais qu'entendez-vous par là ?» Et je compris que l'art de servir son ambition en feignant de se dévouer aux affaires publiques leur était inconnu. Nous nous assîmes devant un cabaret pour étancher nos soifs. Mon hôte commanda qu'on nous servît du vin. « Hélas, mes bons messieurs, dit le cabaretier, excusez-moi si je ne puis pas vous satisfaire, mais les raisins ont été rares et fort chers. Il ne m'a pas été possible de faire du vin cette année. » Je m'amusais de la naïveté de ce cabaretier exceptionnel qui ne connaissait pas les vendanges chimiques. Une dame passa, que salua mon hôte. Ils étaient de connaissance et causèrent. « Sachez, dit-elle, que c'est aujourd'hui mon anniversaire. « Vraiment, quel âge atteignez-vous ? » Elle répondit, « 35 ans. » Bien qu'elle fût encore très fraîche et que son sourire s'entr'ouvrit sur la friandise blanche de ses dents. Cette dame était pourtant une coquette, comme j'eus le loisir de m'en apercevoir. « Dois-je vous apprendre, dit-elle, que j'inaugure aujourd'hui une toilette neuve ? Vous ne l'avez seulement point remarquée. Comment la trouvez-vous ? » Mon hôte répondit, « Mon, ça ne me plaît guère. » La coquette devint très rouge et tourna les talons sans ajouter un mot. « Vraiment, me dit mon compagnon, cette dame est étrange. Elle me demande mon avis et quand je lui donne, elle se fâche. Voilà encore la rupture d'une agréable relation. Y a-t-il beaucoup de personnes avec qui vous soyez ainsi brouillé ? Hélas, dit-il, c'est la grande majorité. Du reste, ce désagrément ne m'est point particulier. C'est ici la situation générale. Presque tous les citoyens de la ville sont fâchés entre eux. Même le plus grand nombre se haïssent, et chacun vit chez soi, isolé. Mais, lui demandai-je, ne serait-il point les uns chez les autres pour y prendre de la nourriture ? Et les femmes ne se rassemblent-elles pas pour sourire, médire et boire du thé ? N'échangez-vous pas des amabilités indifférentes ou hostiles ? N'avez-vous aucun de ces bals où se pressent des foules élégantes, suantes et ennuyées ? Et où l'on vient, suivant l'âge, les goûts et le sexe, chercher un amant ou un mari, une épouse ou une maîtresse. Mon compagnon se mit à rire. Mais quel conte me faites-vous là ? Chacun mange à sa table, et l'on ne se rapproche que des personnes qui vous sont familières ou sympathiques. C'est une règle qui me paraît évidente. En vérité, vous plaisantez agréablement. Et je ne fus point surpris d'apprendre qu'il ne connaissait pas ce que l'on est convenu d'appeler chez nous le monde, ce champ de sourires artificiels, sous lesquels croissent les herbes grossières des conventions sociales, et dont les tiges épineuses sont les pires hypocrisies. Mon hôte m'offrit ensuite de me conduire chez une courtisane pour y prendre quelque plaisir. J'y consentis avec empressement. C'est ainsi que, sans nous dissimuler aucunement le long des murs, nous montâmes chez une juive qui s'appelait Rebecca. Cette fille avait une peau métallique et des cheveux parfumés dont les grappes tombaient à ses talons. Dès que nous entrâmes, elle nous demanda « Avez-vous beaucoup d'argent ?» Je lui montrai quelques pièces d'or, à la vue desquelles elle vint s'asseoir sur mes genoux. Elle s'occupait de ses clients bien agréablement et je n'eus qu'à me louer de ses caresses. Mais elle ne feignait aucun transport et ne prononçait aucun de ces mots « mon joli brun, mon chéri, familier aux femmes de cette profession ». En sortant, je dis à mon hôte « Bah, cette femme est une honnête commerçante, mais ses baisers sans amour me répugnent. Comment ? » s'exclama-t-il. « Vos paroles me donnent à entendre que vous honorez l'amour ? » Mais je dois les avoir mal comprises. Sachez que nous ne prenons ce mot, moi et ceux de ma race, qu'avec la terreur et le dégoût qu'on a devant les malandrins dits honteuses, et que nous le chassons de notre vie comme un chien couvert de vermine. Nos sénateurs ont promulgué des édits recommandant aux jeunes gens d'éviter la compagnie des femmes, dans la crainte d'être atteints ou de contaminer eux-mêmes leurs compagnes, par la contagion de ce terrible mal. On les encourage, au contraire, à se rendre chez les courtisanes pour apaiser les besoins de leur sexe et satisfaire hygiéniquement aux lois de la nature. Aussi, les courtisanes sont-elles tenues en haute estime pour les importantes fonctions sociales qu'elles remplissent. Elles sont dispensées d'acquitter les impôts et ont leur place réservée dans les cérémonies publiques. Mais quand le virus d'amour tombe sur l'un de nous, on considère cet empoisonnement comme la plus cruelle manifestation des colères divines. Les amis et les parents du pestiféré font brûler des cierges et des encens pour apaiser le courroux de la divinité. Et certains, quand ils sont possédés, s'en vont même chez de vieilles sorcières qui leur font boire du sang de lapin blanc dont le cœur fut traversé par une épingle d'or afin de conjurer l'esprit malin. Je ne m'expliquais pas d'abord les raisons de cette épouvante. Je l'ai compris à la réflexion. Et rien ne me parut plus juste. Car l'amour ne peut nous séduire que par des artifices, les mensonges et les illusions qui le décorent. Dépouillé de ses oripeaux, il n'en reste que la souffrance, et c'est le pire des maux. Et chez ce peuple étrange, il en était de l'art comme de l'amour. L'art n'est qu'un merveilleux mensonge. Et je n'eus pas de peine à me convaincre, ce dont j'étais assuré à l'avance, que ces gens-là n'en pouvaient pas soupçonner l'existence, et qui ne possédaient ni peintre, ni musicien, ni sculpteur, ni poète, puisque de tout cela, l'œuvre est d'évoquer seulement des fictions et des apparences, de faire enfuir sur des mers imaginaires les blanches caravelles des rêves, et de créer au lointain des horizons artificiels un mirage de citernes fraîches où se pressent avec angoisse les âmes altérées d'illusions. Quand nous revînmes chez mon hôte, il apprit que ses navires venaient d'entrer au port, chargés de marchandises considérables, mais que celles-ci avaient été gravement avariées pendant la traversée. Il fut très vivement contrarié et me dit « Les marchandises étaient déjà vendues et l'acquéreur va venir en prendre livraison. Quand il connaîtra l'accident, il résiliera le marché et je vais perdre de ce fait une grande partie de ma fortune. » Son futur gendre se remit à ce moment et lui demanda gaiement « Eh bien, beau-père, voici vos navires qui rentrent au port, chargés de richesses. Vous allez réaliser un gain considérable. » Mon hôte lui répondit « Bien au contraire, je vais perdre une grande partie de ma fortune. » C'est ainsi que le mariage de sa fille fut aussitôt rompu. Je partis plein de compassion pour ce peuple. Il m'était apparu sans grandeur, sans séduction et sans prospérité. Il ne savait pas animer sa poussière. Il ignorait vraiment tout ce qui fait le charme de la vie, sa parure et sa seule saveur, l'unique puissance qui en décore d'une apparence de bonheur la médiocrité douloureuse, en même temps qu'elle distille l'huile nécessaire au rouage des sociétés, qu'elle adoucit les mœurs, qu'elle engendre les civilisations et qu'elle arme chaque homme, faible ou robuste, d'une force égale pour se défendre contre les autres êtres et pour lutter contre la nature, l'éternelle trompeuse. C'est pourquoi la condition de ce peuple m'a paru misérable. Mais je suis depuis qu'une petite Parisienne de Montmartre, au nom de Josette Mérigot, était allée là-bas pour y chercher fortune. Et je ne doutais pas que les citoyens de ce pays n'eussent appris au contact de ses yeux et de ses lèvres le remède essentiel de la misère humaine, le nécessaire, le bienfaisant mensonge.